les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans ses spécialités. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Mathias Audit, professeur de droit à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, évoque avec nous la faillite de l'État. Deuxième épisode. Comment un État s'endette-t-il ?
Bonjour, chers auditeurs d'Amicus Curiae. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de cette question de la manière dont un État s'endette. Et à cet effet, nous avons le privilège de recevoir Nicolas Mounier, qui est responsable juridique des prêts aux États étrangers à l'Agence française pour le développement, que je remercie tout à fait sincèrement d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Alors Nicolas, commençons immédiatement. J'aurais voulu savoir, dans un premier temps, nous aurions voulu savoir quelle est la nature exacte de vos fonctions, personnellement, et puis plus généralement peut-être de l'Agence française pour le développement.
Bonjour Mathias, merci beaucoup de me recevoir. Alors en effet, comme tu l'as dit, je suis responsable de l'endettement des prêts aux États étrangers au sein de l'AFD. C'est une fonction qui consiste à gérer une équipe de juristes de financement qui négocie l'ensemble des prêts qui sont faits aux souverains au sein de l'Agence française de développement et qui représente un encours à peu près de 9 à 10 milliards d'euros.
D'accord. Et alors, d'une manière générale, donc les fonctions de l'Agence française pour le développement, c'est donc de participer au développement économique d'États étrangers, particulièrement faibles économiquement ou...
Exactement. Alors, on intervient essentiellement en Afrique. Lorsqu'un État a besoin de se développer, prenons un exemple concret pour construire un hôpital ou un barrage, il fait appel à l'AFD et fait une requête de financement. Et en effet, c'est à partir de là où l'équipe de juristes de l'AFD va travailler pour mettre en place ces financements et signer ce qu'on appelle des contrats de financement internationaux.
Alors justement, sur ces contrats que tu viens d'évoquer, Nicolas, d'un point de vue plus technique, comment sont-ils structurés, ces contrats de prêt que souscrivent les États étrangers auprès de l'AFD ?
Alors, en simplifiant, il y a deux phases de travail. Quand on met en place un contrat souverain, pré-souverain, un État, une première phase en chambre, où en fait on va étudier le cadre juridique dans lequel l'État peut s'endetter. Et on va en particulier s'attacher aux questions de capacité. Est-ce que l'État peut ou pas emprunter ? Ça, c'est une phase en chambre qui se passe essentiellement au siège. Il y a une deuxième phase, beaucoup plus terrain.
Alors, pardonne-moi, je t'interromps. Quand tu évoques la question de phase en chambre, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Ça veut dire que les équipes de l'AFD travaillent au siège de l'AFD. D'accord. C'est-à-dire qu'on passe devant des comités de crédit où on décide ou pas, on va endetter et financer un État et sur quel type de projet. Ça, c'est une première phase qui peut durer entre 6 mois et 1 an. Il y a une deuxième phase beaucoup plus terrain où on va avoir un certain nombre d'échanges sur un contrat de financement et on va aller le négocier généralement sur place avec les autorités locales et en particulier les ministères des Finances, concernés. Alors comment ils sont structurés ? On peut faire deux distinctions. Si l'AFD est seule à financer un projet, l'exemple que j'ai pris, on finance la construction d'un hôpital au Mozambique, l'opération va être structurée de façon assez simple. On va avoir un prêt, généralement de droit français, sans garantie. C'est une grande tendance des financements souverains. Ça n'a pas été le cas historiquement. Au 19e siècle, un certain nombre d'emprunts étaient garantis. Ces prêts ne le sont pas. Et ils utilisent pour l'essentiel, le marché financier aime beaucoup les utiliser, les bailleurs du développement aussi, des standards de place. C'est des standards de place remaniés, et on pourrait dire que c'est des standards du développement, mais qui utilisent les meilleures pratiques du marché financier. Ça, c'est lorsque l'AFD prête seul à un État, quand un souverain, le Mozambique encore dans mon exemple, fait appel à l'AFD. C'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus compliqué lorsque le projet est plus grand et demande à ce qu'il y ait plusieurs bailleurs. C'est-à-dire que la Banque mondiale va intervenir ou une autre banque. Et dans ces cas-là, on va passer ce qu'on appelle des accords de cofinancement. Et là, l'opération va être plus structurée.
Alors, je comprends disons que la première étape, c'est évidemment une évaluation de la solvabilité finalement de l'État qui est susceptible d'emprunter auprès de l'AFD. Et Du coup, ma question suivante, disons, est assez vient dans la logique de celle-ci, à savoir, êtes-vous parfois confronté à l'AFD à des difficultés de remboursement, des faillites d'État, si on peut employer cette expression?
Alors, c'est une question difficile parce que c'est la confidentialité dans ce type de sujet est extrêmement importante. Tu sais très bien que les défauts en matière de dette souveraine ont des conséquences. On l'a vu sur les crises récentes européennes et même en Amérique latine avec l'Argentine, ont des conséquences dramatiques pour les États et leurs finances publiques. Donc, c'est évidemment un sujet extrêmement confidentiel. Ce que je peux dire, c'est que l'AFD n'échappe pas, comme tout bailleur, à des problèmes de remboursement. Et oui, on peut avoir des États qui ont des difficultés de remboursement.
Et est-ce que cela signifie que lorsqu'une hypothétique difficulté de remboursement se présente, cette question est gérée par l'intermédiaire de cette institution qui existe à Paris et auprès du ministère des Finances, qu'on appelle le Club de Paris, et qui permet en principe de restructurer la dette des États, en tout cas de la dette interétatique?
Oui, absolument. C'est-à-dire que la particularité des prêts souverains faits par l'AFD, ce sont des créances publiques, donc considérées comme un créancier public, et de ce fait-là, sont admissibles automatiquement au traitement en Club de Paris.
Donc l'AFD a beau être, disons, distincte de l'État français, en réalité, du point de vue, disons, international et du point de vue de la restructuration des dettes d'État étrangers, c'est considéré comme un créancier public, et donc en fait, finalement, au bout du compte, un créancier étatique, c'est-à-dire l'État français lui-même.
Oui, avec la précision que lorsque l'AFD, et ce qui montre bien sa séparation avec l'État, intervient sur le non-souverain, ça nous emmènerait trop loin de l'expliquer, mais c'est-à-dire que quand on fait des prêts où les États ne sont pas concernés, dans ces cas-là, les créances de l'AFD ne sont pas automatiquement admises au Club de Paris. Donc il faut faire une distinction entre nos créances dites souveraines, lorsque l'État emprunte directement auprès de l'AFD, ou automatiquement ça passe en Club de Paris, et nos créances non souveraines qui ne sont pas automatiquement soumises au traitement en Club de Paris.
D'accord. Et alors, merci pour ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre la manière dont ces prêts sont octroyés par l'AFD à des États étrangers, et puis la manière aussi dont potentiellement ils sont traités si une difficulté de remboursement se présente. Mais alors, plus globalement, eu égard à votre expérience qui est grande en matière, à ton expérience, pardon, qui est grande en matière de dette d'État, quelles sont, disons, les grandes évolutions notables en matière de dette souveraine que tu es en mesure d'identifier au cours, disons, de ces 20-30 dernières années?
Alors, c'est une question difficile. Mon retour d'expérience, je dirais que la première leçon, c'est que précisément, il n'y a pas de tendance générale. Je pense que ça a beau être un marché global, en réalité, pour cerner les évolutions du marché, il faudrait raisonner en sous-régions, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose l'endettement souverain en Afrique qu'en Amérique latine ou en Asie. Et encore, même ces distinctions régionales, pour moi, sont pas toujours pertinentes. Et il faudrait raisonner par type de souverain, émergent, non émergent, très endetté, non endetté. Une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'une des tendances, mais qui n'est pas propre à l'endettement souverain public et qui a débuté à la fin des années 90 au siècle dernier, c'est le renforcement du rôle des marchés financiers et le retrait des banques sur la dette souveraine. À l'évidence, c'est une tendance qui a été confortée, qui est encore vraie. Massivement, l'endettement souverain prend la forme d'endettement obligataire avec un retrait du rôle des banques, ce qui est un peu moins vrai pour les bailleurs internationaux du type l'AFD, mais qui intervient de façon très particulière.
Alors, qu'est-ce que tu veux signifier exactement pour que nos auditeurs comprennent parfaitement la question lorsque tu indiques qu'il y a eu ou qu'il y a un retrait des banques?
Retrait des banques, c'est en réalité, quand je dis retrait des banques, c'est plutôt les emprunteurs, le recours massif à l'emprunt qui a généré des besoins massifs de liquidités et la nécessité pour les emprunteurs de s'adresser. Et par ailleurs, les banques avaient des contraintes réglementaires et prudentielles qui faisaient qu'elles avaient un certain nombre de limites qu'elles ne pouvaient pas dépasser, et de s'adresser au marché financier. Donc une des tendances, c'est l'éclatement des acteurs du marché, tant du point de vue des bailleurs, le rôle important
des prêteurs, donc.
Exactement, des prêteurs, et aussi la multiplicité des acteurs et des bailleurs.
D'accord.
Tendance lourde.
Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que cet échange concernait principalement les États, disons, plus faibles économiquement et qui sont en demande de financement. Mais il n'en reste pas moins que ce sont précisément ces États qui sont susceptibles d'être dans une situation d'insolvabilité ou de faillite. Merci infiniment, Nicolas, pour ces explications extrêmement claires. Et j'indique maintenant aux auditeurs d'Amicus qu'il faut qu'ils prennent patience, car nous aurons un prochain épisode la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt sur Amicus Radio.
Merci. Au revoir.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.